BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. On est ensemble jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, alors que c'est la grande question du moment, faut-il taxer les rentes? Avec Gabriel Attal a demandé des propositions sur le sujet d'ici juin. Ouais, sauf que Bruno Le Maire l'a dit comme ça aujourd'hui au Sénat. Ne venez pas chercher des noix à Total Energy sur ce sujet. Ça serait dommage que Total retire son plafonnement du prix de l'essence à la pompe. On va voir ça, bien sûr, dans un instant. Puis on aura nos experts dans un quart d'heure, ce qu'ils en pensent aussi.
Et oui, alors on va parler aussi des polluants éternels parce que ça y est, l'Assemblée a voté une loi pour limiter la diffusion. On a quand même exclu les poêles Tefal du dispositif. Hein. On en parlera dans un instant. Et puis on parlera aussi du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui veut changer de méthode pour définir ses projections. Un changement de méthodologie qui ne plaît pas à tout le monde, notamment aux syndicats.
Tout ça plus d'autres sujets qui sera avec nous dans un quart d'heure pour parler de tout ça jusqu'à 20h. Ben Emmanuel Kessler va revenir, bien sûr. Nicolas Marquez du think tank Institut Molinari et le communicant Samuel Botton. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr.
À tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc, ce dossier des PFAS qui nous aligne depuis 48 heures. Bonsoir Alexandra. Donc, ça n'a pas traîné. L'Assemblée a adopté la loi qui vise à restreindre et la fabrication et la vente de produits contenant ces fameux PFAS, en épargnant au passage les fameux ustensiles de cuisine, sauf qu'on sent que le gouvernement avance quand même très très prudemment sur ce sujet, Alexandra.
Alors effectivement, l'exécutif défend sa stratégie européenne pour interdire l'usage de certains PFAS et temporise. Des restrictions seront bien ajoutées dans toutes les réglementations sectorielles européennes dès le mois prochain, au fur et à mesure de l'avancée des travaux scientifiques européens. Et de citer la victoire française quand même obtenue dans le secteur des emballages dans un compromis de mars, mais Roland Lescure le martèle, ce n'est pas une question de fond, mais de forme. Selon le ministre de l'Industrie, je vous propose de l'écouter.
Évidemment, le gouvernement souhaite légiférer sur les PFAS, souhaite interdire les produits dangereux, souhaite privilégier la santé publique. Nous considérons que ce sera bien mieux fait dans un cadre européen qui est déjà en cours, et qui est en cours du fait de la France, d'ailleurs, qui pousse pour accélérer les procédures, d'évaluation scientifique de la dangerosité des produits. Certains sont dangereux et doivent être interdits, d'ailleurs certains le sont déjà au niveau européen, d'autres ne le sont pas et devront donc être autorisés. Et donc c'est essentiellement un écart de méthode qui aujourd'hui oppose le gouvernement à, je l'ai bien vu, la large majorité de l'Assemblée nationale.
Au niveau national, il est aussi prévu d'accélérer la production de valeurs toxicologiques de référence et la fixation de valeurs limites d'émissions, ce qui pourrait permettre des arrêtés préfectoraux immédiats en cas de rejet excessif constaté. Reste, Guillaume, que là aussi, la fixation de limites acceptables promet d'être âprement débattue, les PFAS étant jugés potentiellement nocifs, même à très faible dose.
Voilà pour ces polluants éternels, dossier dont on parlera bien sûr avec nos experts ce soir jusqu'à 20h. Merci beaucoup Alexandra. Alexandra Paget avec nous sur BFM Business. Pendant ce temps, le gouvernement, je vous disais, continue de s'activer pour trouver quelques milliards de plus. Vous savez que l'une des pistes envisagées, c'est d'aller taxer les rentes. Bah, justement, Bruno Le Maire en a reparlé indirectement au Sénat ce matin. Le message de fond, c'est ne venez pas redemander des comptes à Total Energy. Écoutez.
C'est moi-même qui ai demandé le plafonnement à 1,99€ à Total Energy du litre de carburant. Je pense que c'est très important de le maintenir. C'est moi-même qui ai demandé la prolongation en 2024. C'est une sécurité absolument essentielle pour les automobilistes et en particulier pour les zones rurales. Je souhaite évidemment que ce soit maintenu et que nous ne prenions aucune décision qui puisse remettre en cause ce plafonnement.
Voilà Bruno Le Maire ce matin au Sénat. Bonsoir Mathieu Pechberti. C'est ça le message, hein, pas touche à Total, c'est ça le message de fond finalement.
Oui, oui, c'est assez étonnant d'ailleurs dans la forme à quel point le ministre de l'économie Bruno Le Maire, on va dire préservait, j'ai pas envie de dire défendait, mais préservait Total Energy qui était dans le cadre d'une audition au Sénat en tout cas un petit peu titillé sur les sujets climatiques. Alors clairement il met en avant le fait que Total est un groupe français, il n'y a pas beaucoup de majors pétrolières françaises dans le monde, il y en a qu'une, voilà, ouais. Depuis plusieurs décennies, face à des Américains, aux pays du Moyen-Orient ou aux Chinois. Et lui met en avant évidemment le rôle important de Total Energy. Il compte sur Total Energy pour investir dans les énergies renouvelables. Je vous rappelle que l'électricien EDF maintenant est 100% public et a déjà du mal à investir dans le parc nucléaire. Il compte aussi sur Total Energy pour acheter, pour signer des contrats justement avec EDF et donc participer de manière indirecte au financement du futur programme nucléaire. Et il compte, évidemment, il l'a dit, on vient de l'entendre, sur Total pour faire des efforts financiers afin de limiter, de plafonner les prix de l'essence et donc faire un geste pour le pouvoir d'achat des Français. Donc une sorte de jeu un petit peu win-win, comme on dit. Voilà, oui, alors win-win, ou en tout cas chacun y trouve son intérêt, entre Bruno Le Maire qui évite d'avoir à faire un effort budgétaire et donc demande à Total de faire un effort, qui en échange essaye de redorer son blason, parce que vous savez, Total souffre quand même d'une image assez difficile, notamment auprès des étudiants, mais dans la population, pour son image de pétrolier pollueur. Donc finalement, le ministre de l'économie à la rescousse de Total Energy.
Et voilà, merci beaucoup Mathieu. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Une information BFM Business, la filiale française de Body Shop, on s'y attendait, a été placée en redressement judiciaire aujourd'hui par le tribunal de commerce de Paris. Filiale qui emploie aujourd'hui 260 salariés. Si le sujet vous intéresse, vous retrouvez plus d'infos sur notre site bfmbusiness.com. Et puis, il va y avoir un nouveau plan de départ volontaire chez Sanofi, encore dans la recherche et développement. Plus de 300 postes sont concernés. Parce que le groupe l'explique, désormais, sa priorité, c'est plus le cancer, c'est l'immunologie. Hélène Cornet.
C'est un vrai virage stratégique. Sanofi stoppe la plupart de ses projets en cours dans l'oncologie, un domaine thérapeutique très gourmand en investissement, plus €1 milliard l'an dernier, où le laboratoire n'a pas rencontré pour le moment beaucoup de succès, et même plutôt des échecs, comme le traitement expérimental contre le cancer du sein. La marche était trop haute pour rattraper ses concurrents. Sanofi préfère concentrer ses investissements dans l'immunologie, où il a pour ambition de devenir leader mondial. Une nouvelle étape qui implique de prendre des décisions fortes, reconnaît le groupe. 330 postes de chercheurs vont être supprimés. Un nouveau plan de départ volontaire, le troisième depuis 2019, qui ne passe pas auprès des syndicats. Il dénonce un énième changement de cap et regrette qu'on ne laisse pas à la recherche le temps long nécessaire. Plus globalement, il s'inquiète de l'avenir de la R&D chez Sanofi, dont les effectifs ont fondu de moitié en 10 ans.
Hélène Cornet, côté entreprise toujours, ça se présente mal pour Vodafone qui veut fusionner avec la holding de l'opérateur Three UK. L'autorité britannique de la concurrence ouvre une enquête approfondie sur cette opération. Elle craint que tout ça ne débouche sur des hausses de prix dans les télécoms du côté de la Grande-Bretagne. Et puis, figurez-vous qu'en France, l'État est à la traîne sur l'utilisation de l'IA pour les services publics. C'est ce que dit un rapport du Sénat qui est sorti aujourd'hui. Théoriquement, ça devrait faire gagner du temps et de l'argent, mais on est à la ramasse totale apparemment. Nathan Cocampo.
Détecter une piscine non déclarée sur le territoire grâce à des satellites. Voilà l'une des rares utilisations les plus abouties aujourd'hui de l'IA générative par les administrations fiscales. Les sénateurs saluent un succès incontestable pour un dispositif de 24 millions d'euros déjà rentabilisé. Autre projet encourageant pour les sénateurs, l'IA Amendement, un outil d'IA qui permet au fisc d'automatiser le traitement d'informations légales et ce, avec la même qualité qu'un humain spécialiste. Le problème, c'est que mis à part ces exemples, les chatbots utilisés par les administrations fiscales sont jugées assez superficielles par les sénateurs qui pointent un accès limité aux données. Pour accélérer le développement de l'IA dans les services publics, il faut plus de moyens, pointent les sénateurs. Humains d'abord, avec plus de spécialistes, des data scientists trop peu nombreux aujourd'hui, seulement une dizaine au fisc. Technique ensuite, aujourd'hui les outils sont très loin d'être à la pointe de la technologie. Financier enfin, selon le dernier rapport du comité IA du gouvernement, l'État devrait investir 5 milliards d'euros par an pour que la France reste dans la course à l'intelligence artificielle.
Eh oui, il faut des moyens, c'est comme partout. Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business, 19h09, on retourne sur les marchés.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance, avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Les marchés, je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris, journée quasiment pour rien, puisque le CAC 40 a terminé à l'équilibre à 8151 points ce soir. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
Ça a l'air de s'agiter un peu plus à Wall Street là.
Ah oui, vous avez même un S&P 500 qui était à 10 points de son record historique. Nette surperformance de Wall Street, trois indices américains qui gagnent entre 0,5 et 0,8%. Hier, Jerome Powell qui était dans une université à Stanford et qui a dit, bon certes, les problèmes du réchauffement climatique, c'est pas mon problème, c'est pas le problème de la Fed, mais ça fait pas réagir les marchés, ce qui fait surtout pour réagir les marchés, c'est qu'il a dit que même s'il y avait des indicateurs qui étaient meilleurs que prévu, donc plus solides qu'attendus ces derniers jours aux États-Unis, ça ne changeait pas le tableau d'ensemble. Sous-entendu, vous inquiétez pas, les baisses de taux, les quatre baisses qu'on a annoncées, elles seront toujours là pour cette année. Donc ça rassure le marché, l'obligataire qui se détend très nettement. Et puis dans le même temps, vous avez un Nasdaq qui surperforme très clairement parce que vous avez Nvidia qui reprend quasiment 1%. Vous savez qu'Nvidia sous-traite auprès de TSMC, qu'il y a eu un séisme à Taïwan, mais TSMC a dit ça va, on va gérer. rassurés. Et aujourd'hui, Nvidia, vous inquiétez pas, il y aura pas de problème d'approvisionnement. Donc le marché est rassuré par rapport à cela. Et puis une autre valeur qui fait l'actualité aujourd'hui à Wall Street, c'est Levi-Strauss, avec bien sûr les jeans. Hein. 15% de progression, très belle séance pour Levi-Strauss, avec un gros travail sur les coûts qui a été opéré. Donc par rapport à cela, le groupe revoit à la hausse ses perspectives pour cette année. Ça rassure un petit peu parce que c'est compliqué dans le secteur de l'habillement. Ouais. On se souvient qu'en début de semaine, la maison mère de Calvin Klein et de Tommy Hilfiger avait revu à la baisse ses objectifs. Gap également, c'est très compliqué. Donc là, c'est un acteur qui sort du lot et c'est salué à Wall Street.
Eh oui, mais c'est Levi's, que voulez-vous ? Voilà. L'éternel Levi's, voilà, qui rodait toujours. Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque avec nous sur BFM Business, bien évidemment. 19h11, on revient avec Audrey Tcherkov dans un instant et nos experts. Beaucoup de choses encore ce soir. Taxes élérantes, mais Bruno Le Maire a dit pas touche à Total. Le corps qui veut durcir les scénarios concernant l'évolution des régimes de retraite. Et puis plein de choses à voir avec vous. Les PFAS, bien sûr. On a adopté une loi pour freiner leur diffusion, mais on a épargné les poils Tefal, donc tout n'est pas perdu. Tout ça, plus d'autres choses jusqu'à 20h, évidemment. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, on est reparti jusqu'à 20h en direct sur BFM Business. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
Avec nous jusqu'à 20h et nos experts qui sont là, Emmanuel Kessler est revenu.
Bonsoir.
Rebonsoir Emmanuel, journaliste économique, Nicolas Marquez. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Directeur général du think tank de l'Institut Molinari, puis Samuel Botton, expert en communication.
Bonsoir.
Bonsoir Samuel. Merci messieurs d'être là pour commenter l'actu qui est encore très... Même avant les vacances, oui, il se passe des choses. Et c'est tant mieux. Et ce qui nous intéresse encore et toujours, c'est ce gouvernement qui cherche des milliards supplémentaires, Audrey, évidemment.
Et oui, Gabriel Attal a reçu ce matin le rapporteur du budget, Jean-René Cazenave, pour installer la mission spéciale qui lui a été confiée sur la taxation des fameuses rentes. Alors, il faudra faire remonter des propositions d'ici le mois de juin. Mais Bruno Le Maire, de son côté, l'a encore redit ce matin lors d'une audition devant le Sénat, pas touche à Total Énergie. On l'écoute tout de suite et on en débat ensuite.
C'est moi-même qui ai demandé le plafonnement à 1,99€ à Total Énergie du litre de carburant. Je pense que c'est très important de le maintenir. C'est moi-même qui ai demandé la prolongation en 2024. C'est une sécurité absolument essentielle pour les automobilistes et en particulier pour les zones rurales. Je souhaite évidemment que ce soit maintenu et que nous ne prenions aucune décision qui puisse remettre en cause ce plafonnement.
Bon, c'est le petit coup d'autopromo de Bruno Le Maire. Ceci dit, le gouvernement a-t-il réellement des marges de manœuvre ? Quand on sait que Patrick Pouyanné, fin 2023, avait menacé de revenir sur le prix plafonné à la pompe s'il y avait une taxe exceptionnelle qui se mettait en place, Nicolas Molinari.
Oui, alors... D'abord, première chose, il faut rappeler que les recettes publiques, elles augmentent de façon très significative, parce que il n'y a jamais eu autant de recettes publiques. Elles ont progressé en moyenne de 35 milliards par an depuis 2017.
Oui. Depuis
2019, elles ont progressé de 42 milliards par an. Et donc, on manque pas de recettes. Hein. Les recettes, elles ne cessent de progresser. En 45 ans, j'ai trouvé seulement deux baisses. C'était en 2009, c'était la crise, et en 2020. Donc là, le sujet, c'est... la taxation des super profits et des rentes inframarginales. Mmh, oui. C'est un sujet ultra technique. Il s'agit de, pour le gouvernement, de taxer les énergéticiens, et les compagnies pétrolières. Ouais. Ils ont déjà mis en place un mécanisme pour l'électricité qui était ultra complexe, qui, comme tous ces mécanismes ultra complexes, n'a pas donné le résultat escompté.
Enfin, juste, non mais pardon Nicolas, mais en fait, à la base, ce mécanisme de taxe sur les...
Sur la rente inframarginale.
Rente inframarginale devait faire que le gouvernement devait récolter plusieurs dizaines de milliards d'euros et on a récupéré quelques centaines de millions. Mais pourquoi ? Parce que justement, Bruno Le Maire a mis en place plein d'exceptions à la règle et des exemptions dans tous les sens. Non, mais c'est ça qui était compliqué.
Le vrai bon mécanisme de taxation, c'est l'impôt sur les sociétés. Et ça, ça fonctionne très bien. Et quand vous avez des profits plus significatifs, l'IS, sans rien changer, vous donne un rendement très significatif.
Mais sauf quand les entreprises font 80% de leur chiffre d'affaires à l'étranger.
Et sauf quand les entreprises font 80% de leur chiffre d'affaires à l'étranger.
Ce qui est le cas de Total.
Ou Total. Paie l'essentiel de sa fiscalité à l'étranger parce qu'en fait, la rente pétrolière, oui, elle est déjà payée par les pays producteurs. Elle est déjà touchée par les pays producteurs. Et donc, si je vous fais un parallèle, nous, on taxe beaucoup notre tissu industriel avec nos impôts de production. Et dans le pétrole, les pays producteurs de pétrole taxent beaucoup ceux qui font de l'extraction avec toute une série de taxes et de droits à forêt. Donc, en fait, pour moi, c'est de l'affichage. Ils vont conclure qu'ils vont modifier le dispositif à la marge. Il ne rapportera pas beaucoup plus d'argent parce que ces taxations spécifiques, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Oui. Et les vraies recettes de Total, des producteurs d'électricité, elles arriveront par le canal standard qui est l'impôt sur les sociétés.
Oui.
Et après tout, ce n'est pas gênant parce que l'impôt sur les sociétés existe quand il y a des profits, ça finance les finances publiques.
Alors, l'argent rentre.
Oui, moi, je ne partage pas tout à fait ce que vous dites.
Emmanuel,
je pense qu'il y a quand même un problème de recettes puisque on est bien parti. L'équation budgétaire inextricable dans laquelle se trouve le gouvernement, elle vient bien du fait de la dégradation des comptes publics sur l'année 2023, puisqu'on a eu un déficit qui était à 5,5 et non pas à 4,9% du PIB, parce que les recettes, non pas qu'elles, il n'y a pas de recettes, mais elles ont été moins fortes que estimées par le gouvernement.
Moins de recettes fiscales.
Moins de recettes fiscales. Et notamment parce que la croissance a été plus faible, t'es pas au rendez-vous, moins d'investissement des entreprises, la machine économique a moins marché. Donc, vous avez aujourd'hui une équation budgétaire qui impose ou bien de faire des économies dans les dépenses, et précisément, ce qui est navrant, c'est qu'on s'est jeté, comme on le fait depuis 40 ans dans la politique française, sur la question des impôts avant de réfléchir à la question des dépenses. Donc il y a un vrai sujet de dépenses, et puis marginalement il y a un sujet de comment est-ce qu'on fait repartir les recettes. Est-ce que, parce que finalement Emmanuel Macron nous a dit pendant des mois et des mois que c'est la croissance qui allait résoudre notre problème de finances publiques, parce que justement par la croissance on augmente les recettes, sauf que la croissance elle n'est pas au rendez-vous et qu'en 2024, ouais, elle sera 1% et non pas 1,4% comme avait cru le pouvoir l'espérer le gouvernement.
Samuel, est-ce qu'il n'a pas raison? Il a raison, Bruno Le Maire. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher des crosses à Total pour que ce dernier retire le dispositif de plafonnement, tout ça pour récupérer quelques millions? Ce qui arrange quand même bien le consommateur, accessoirement le gouvernement dans cette histoire.
Bruno Le Maire, au même titre que le Premier ministre, il est dans un jeu d'équilibriste. Moi, je n'ai rien à retenir de cette séquence dans la mesure où, encore une fois, rien ne se passera avant les européennes. Alors c'est bien d'avoir une commission qui va réfléchir, qui va discuter, une commission qui est quand même très partisane et plutôt orientée côté gouvernement, puisque vous avez Horizon, vous avez Renaissance et quelques autres. J'ai pas forcément vu, mais je dis peut-être une bêtise, de partis qui représentaient la gauche. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, en vous écoutant parler, ça m'a amené à une réflexion, c'est de se dire que bon, on continue de payer les officiers du Covid. Le gouvernement a été là, a soutenu, c'est très bien. La croissance est moins forte que prévu, parce que je pense qu'il y a eu un problème de planification et que personne n'a anticipé les années flat qui allaient suivre le regain d'activité. Il y a beaucoup de secteurs, le voyage, l'événementiel, la restauration, qui ont connu un vrai boom au sortir des confinements, parce qu'il y avait une vraie demande. Sauf qu'à un moment, vous arrivez à un retour à la normalle. Je vous dis une bêtise, par exemple.
En tant qu'instant présent, il fallait éviter de laisser dépérir des
bien sûr,
de l'industrie.
Mais quelqu'un qui organise un mariage, alors c'est bien, vous avez eu plein de mariages qui ont été décalés, qui ont tous eu lieu en 2023. Sauf qu'après, en 2024, vous revenez à la normale et peut-être même un peu à la baisse, et c'est applicable aussi pour d'autres corps de métier. Donc c'est ce qui peut aussi expliquer une baisse de recettes. Sur le reste, là où je m'interroge, donc Gabriel Attal qui nous dit « je ne veux pas toucher à l'épargne des Français
ouais. ».
Dans le contexte actuel, j'ai tendance à penser que l'épargne, c'est une vieille chimère. Le livret A, l'assurance vie, bon ok, mais ça n'a jamais été forcément le problème central. Et enfin, le dernier point, c'est que j'ai un doute sur la temporalité de l'annonce et sur la mise en place de l'exécution. Encore une fois, on est en train de réfléchir à court terme, et j'ai aucun souci avec ça. Moi-même, je le fais très souvent, parce qu'il faut aussi traiter les situations qui sont devant nous. Mais il n'y a aucune planification à
le faire. Oui, alors, sauf que quand même, sur le calendrier, Samuel, le groupe mis en place, chargé de cette mission d'étude sur la taxation des rentes, est censé faire des propositions à partir du mois de juin. Maintenant, on comprend en effet que c'est un coup politique, puisque c'est un pas, en réalité, vers les oppositions, et c'est un projet qui est censé solidifier, enfin, participer à la solidification de la majorité.
Ce débat-là. Parce que ça ne sera pas tranché et on va continuer à étirer le problème autant que possible parce que une élection chasse l'autre. Et
oui, moment, enfin, d'accord, mais à partir du moment où on sait que, un, on ne va pas taxer ni le travail, deux, on ne va pas taxer le capital, on ne va pas non plus taxer
rentes,
les super. Bah voilà,
oui, c'est un peu, ça fait un peu slogan cette histoire de commission pour taxer les rentes, parce que qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
On va pas se lancer sur ce sujet là maintenant, j'entends vos interrogations, mais.
Qui est rentier aujourd'hui en économie? On ne peut pas dire que les entreprises françaises vivent sur des rentes, il y en a qui.
Alors on dit même que EDF est rentier, vu le niveau d'endettement, je ne suis pas sûr.
Bah exactement, quand on voit ces 30 ou 40 40 milliards, c'est ça l'endettement de DF. Donc, l'idée de rente dans le monde dans lequel on est, où il y a besoin de tellement d'investissements, me paraît absurde. Après qu'on aille inciter des entreprises qui rachètent leurs propres actions à davantage investir.
Alors ça c'est une piste intéressante, parce que le rachat d'actions a atteint des records historiques.
Exactement. Et là, on sent bien que c'est une opération qui est purement financière et qui n'a pas d'efficacité économique. Donc je pense que c'est plutôt vers ce type d'incitation qu'il faut aller.
Nicolas Marquès.
Oui, je ne suis pas sûr, parce que le rachat d'actions, ça peut avoir une certaine logique. Si vous n'avez plus de projet à développer, hein, c'est comme les dividendes, vous redistribuez l'argent
Nicolas, pardon, quand on regarde les entreprises qui procèdent le plus au rachat d'actions, sur le podium, on voit Total. Donc Total n'aurait plus aucun projet d'avenir.
Mais oui, parce que
Total... Vous avez peur de la transition.
Mais Total, son business model d'origine...
C'est le pétrole.
C'est le pétrole.
Et donc, on a encore besoin de pétrole.
On sait qu'on va en forêt, mais qu'on va en forêt moins.
Oui, enfin, les gens qui produisaient des cigarettes, les gens qui produisaient de l'amiante, se sont adaptés.
Et en termes de transition, ils sont en train de s'adapter, mais peut-être pas assez vite. Et donc, c'est pas aberrant d'un point de vue stratégie de redistribuer des dividendes ou de faire le rachat d'actions, malheureusement.
Qu'est-ce qu'une rente ? On ne va pas se lancer dans ce débat-là maintenant, parce qu'on y mettrait des heures.
On en reparlera.
On parlera. On parlait des retraites, tiens, ça faisait longtemps.
Oui, avec cette polémique dont on parle depuis quelques jours, le COR, le fameux Conseil d'orientation des retraites, qui est régulièrement chargé d'éclairer le gouvernement. Est-il trop optimiste dans ses prévisions sur l'avenir du système de retraite ?
Alors, il se trouve qu'il y avait une réunion du COR aujourd'hui avec son nouveau patron, c'est l'économiste Gilles Berset, qu'on connaît bien ici, devait présenter une nouvelle méthodologie pour calculer ses prévisions. Et apparemment, c'est une méthodologie qui rendrait les prévisions plus sombres. Ça agace les syndicats, mais est-ce que l'histoire ne nous a pas prouvé que le COR, parfois, avait un petit peu le compas dans l'œil ? Est-ce qu'il faut revoir cette méthodologie, Nicolas, pour
vous ? Oui, le COR avait le compas dans l'œil. Le rapport du COR, qui est attendu tous les ans, c'est un peu l'auberge espagnole.
Oui.
Si vous voulez dire
pour dire le moins.
Tout va bien, madame la marquise, vous avez tous les éléments.
Non, ils disent pas ça comme ça.
Alors attendez.
Le siège qui s'effondre.
Voilà, c'est le rapport du COR qui
s'effondre.
Et si vous vouliez décrire la réalité, c'était entre les lignes. Il fallait comprendre, pour les connaisseurs, les notes de bas de page. Un exemple, le rapport du COR disait toujours « Oui, on est en déficit d'un ou deux milliards, mais c'est anecdotique, ou on est en excédent d'un ou deux milliards. » Mais quand on calcule bien, ce qu'on a fait plusieurs fois à Molinari, en intégrant les retraites des fonctionnaires qui sont le vrai problème, le déficit, c'était pas l'épaisseur du trait, c'était entre 40 et 50 milliards par an. Donc il y avait un vrai problème de transparence, parce que le COR, qui était une bonne idée, ça avait été créé par Lionel Jospin pour avoir un débat nourri, était devenu quelque chose qui endormait le débat. Donc là, il y a Gilbert Sette.
Certains écrivent noyauté par les syndicats. Je ne sais pas si vous le reprenez à votre compte, ça ou pas.
Moi, je ne partage pas l'opposition anti-syndicat, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand vous regardez les syndicats, ils gèrent très bien la Gircarco. Ils n'ont jamais fait de déficit. Ils ont des réserves. Et l'État n'a toujours pas compris qu'il faudrait que tous les régimes de retraite aient des points et des réserves.
Oui, enfin, là, c'est autre chose, parce que Pierre-Louis Lebras, l'ancien président du COR, a été accusé pendant la réforme des retraites, justement, de minimiser l'ampleur des déficits.
Oui, on est bien d'accord, et c'est un problème quand vous avez une instance qui est censée éclairer le débat, qui vous embrouille le débat.
Oui.
Quand Pierre-Louis Lebras disait qu'il n'y avait pas de déficit ou qu'il y avait un ou deux milliards de déficit, nous, on en calculait plus de 45. Oui. Donc, il y avait un vrai problème de transparence. Il faut espérer que Gilles Berset va aider à traiter ça. Mais pour revenir sur les syndicats, il faut pas... Quand on regarde les syndicats, quand ils sont à la manœuvre, quand ils pilotent la Gircarco, ils font ça très bien.
Avec le patronat.
Quand on regarde l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, qui est le plus gros fonds de pension français, avec 45 milliards d'euros, c'est co-géré avec la CGT, Sud, tous les syndicats, ils font ça très bien. Le vrai sujet, c'est que notre État est incapable de mettre les syndicats en position de gestion. Quand les syndicats sont en position de responsabilité, ils gèrent bien. Et en matière de retraite, malheureusement, quand l'État est en position de responsabilité, il gère mal. Il y a deux impairs, il y a deux impasses que fait l'État.
Vous généralisez ça comme ça, à ce point.
Oui, voilà, et clairement, sur les fonctionnaires, ça fait depuis 1853 que l'État a démantelé ses caisses de retraite. Mais c'est aberrant. On a un grand pays, la France, où il n'y a même pas de caisse de retraite pour les fonctionnaires, et les retraites des fonctionnaires sont financées par le budget. Mais vous allez aux Pays-Bas, les retraites des fonctionnaires, elles sont financées par les dividendes et les rachats d'actions dont on parlait tout à l'heure.
Ce que ça prouve au-delà des chiffres et des polémiques sur le COR, d'abord c'est quand même bien qu'il y ait un instrument qui essaye d'objectiver un peu avec... Il y a quand même au sein du COR, même si il est piloté par des syndicats, mais il y a quand même des experts, des gens qui ont une méthodologie assez scientifique. Et après, évidemment, ça donne lieu à l'interprétation, mais je pense que c'est bien qu'il y ait cet organisme de référence qui nous donne quand même des indications. Mais on voit bien que la question de fond, c'est que le financement des retraites en France est en particulier des retraites versées aux fonctionnaires par l'État, qui pèsent beaucoup dans le déficit public. Ça, il y a eu plusieurs études qui le montrent, notamment un rapport l'été dernier qui avait été fait par un ancien directeur du budget, Jean-Pascal Beaufray, et qui est un peu masqué. Voilà, c'est que le problème du financement des retraites en France n'est toujours pas résolu. Et donc, on a un peu trompé les Français en leur disant « il faut absolument faire cette réforme, la retraite, on va la passer de 62 à 64, ça va être formidable, etc. Ouais. » Bon, et vous allez voir, vous allez être tranquille, on baissera pas les pensions, ce sera, vous allez faire un effort et tout ça va être résolu. Et ce qu'on est en train de voir mois après mois, et qui plus est, la situation démographique ne va pas arranger les choses, c'est que 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, et que dès 2027, le président de la République qui sera élu et qui succédera à Emmanuel Macron devra s'attaquer à une nouvelle réforme des retraites avec le poids de tensions sociales que cela provoquera.
Samuel, parce que si on en revient à cette question de un seul scénario, ça évitera quand même que chacun y aille de son interprétation, parce que je vous rappelle que c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a des centaines de pages dans le rapport du corps, des centaines d'hypothèses et quatre manières différentes de compter le déficit.
Il faut resserrer, alors peut-être pas une solution, avoir des projections sur une, deux, trois, mais pas au-delà. Donc ça va être le rôle de Gilles Berset, on va lui accorder au moins le bénéfice du doute et le laisser arriver. Après, pour essayer d'imager un peu la chose, ça
même trois scénarios, pardon. Oui. Enfin, je veux dire.
C'est le consultant.
Scénario bas, scénario haut.
On en revient au travail de consultant et ça me rappelle la relation que j'ai avec mon comptable. Quand je lui demande quelque chose, il me fait 4, 5, 6 projections différentes, mais à aucun moment j'ai la finalité du problème ou le bon conseil qui va
c'est
avec.
C'est pour ça que l'intelligence artificielle va remplacer les comptables.
J'espère qu'on gardera quand même un peu du temps.
C'est
ça, pour le coup, on va le garder
qui
pour
vous
plus tard.
Une solution toute faite en...
Tout à fait. Donc, en fait, on a un problème de lisibilité. On s'est retrouvé avec des conclusions qui étaient floues et qui ont été appliquées sur une réforme qui est illisible. Ça, c'est un problème. Et après, il faut remettre de l'ordre. Et encore une fois, toujours la même chose. Le court terme, le long terme, faire la synthèse. C'est ce qui n'a pas été fait ces dernières années, de toute évidence. Et puis après, à un moment, on va voir ce qui peut se passer. Il y a des tests qui ont été faits sur des indicateurs 2005-2019. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces standards-là. Donc, il va falloir remettre
la... Parce qu'en plus, on a un effondrement de la productivité, Nicolas.
Oui, on a un effondrement de la productivité. Et ça fait le lien avec le sujet qu'on avait avant. On a des gisements d'économies majeurs en matière de retraite sans baisser les prestations. Parce que, clairement, si, par exemple, l'État... pour ses personnels, l'État en tant qu'employeur provisionnait les retraites de ses fonctionnaires comme le fait le Sénat, il économisait 30 milliards par an. S'il était un petit peu plus vertueux et s'il faisait comme la Banque de France qui provisionne intégralement les retraites de ses fonctionnaires, il économiserait 50 milliards par an.
Mais aujourd'hui, il ne peut plus le faire compte tenu de la situation des déficits.
Si, il peut le faire. Parce que d'autres pays l'ont fait. Québec l'a fait dans les décennies écoulées. Il s'agit de provisionner. Et l'État, il s'est emprunté. Il sait émettre de la dette.
Il sait dépenser aussi, puisqu'il y a une explosion des dépenses de fonctionnement.
C'est-à-dire que si l'État emprunte à long terme, le coût de sa dette sera beaucoup moins élevé et il va créer de la valeur. Il sait placer le fonds de réserve des retraites qui avait été créé par Lionel Jospin en même temps que le COR. C'est gérer ça. C'est ce qu'il faut faire.
Allez, projet, un rapport du COR, ça sera en juin prochain. Ça va donner lieu à pas mal d'articles et de spéculations ici à 19h32 sur BFM Business.
BFM Business présente Good evening business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, on vous parle tout de suite du sujet qui fait polémique depuis quelques jours avec Nicolas Marques, Emmanuel Kessler et Samuel Botton à l'Assemblée nationale. Depuis quelques jours, il y a ce débat sur les PFAS. Les députés ont commencé à se pencher sur l'examen du test visant à restreindre leurs utilisations, les polluants éternels, dont on vous parlait d'ailleurs hier. Donc ils ont réussi à calmer le jeu avec Seb.
Les députés qui ont voté en première lecture, ça y est, la loi qui va restreindre l'utilisation de ces PFAS. Qui va épargner, c'est une des manœuvres du jour, les fameuses poêles Tefal du groupe SEB, avec 600 salariés avaient manifesté hier devant l'Assemblée. Écoutez ce que disait le député écologiste Charles Fournier aujourd'hui, dit bon, les poêles Tefal sont passées entre les mailles du filet, mais au moins on a réussi à sensibiliser l'opinion sur le sujet, écoutez.
Il y a deux ans, on ne parlait pas de ce sujet. Donc évidemment, pour nous, c'est une victoire d'avoir voté ce premier article qui interdit dans les cosmétiques, dans les tissus, les vêtements, et puis dans les emballages, le recours au PFAS dans son ensemble. C'est évidemment une victoire. Maintenant, nous pouvons regretter évidemment que certains sujets aient été écartés, et notamment les ustensiles de cuisine. On vous explique qu'on va perdre des emplois. Mais moi, je vous le dis, on peut changer des chaînes de production. Nous, je proposais de laisser 3 ans pour changer les chaînes de production, pour enlever ces revêtements et faire d'autres types de poils. On continuera de vendre des poils. Il n'y a pas de raison de supprimer des emplois.
Non, mais c'est ça, parce que dans le calendrier du texte initial, l'interdiction, elle commençait à partir de 2025, elle jouait jusqu'à 2027 avec des dérogations pour certains produits. C'est quand même dommage que le texte n'ait pas été voté dans sa totalité, non, Samuel Botton ?
Il y a eu un gros lobbying de CEP, puisqu'ils ont même payé les ouvriers, enfin les cars de transport pour...
Et ils ont menacé certains employés, justement, s'ils n'allaient pas manifester.
Ouais, donc c'est un peu limite. Ouais. C'est même un peu limite. Ouais. C'est pas toujours comme ça qu'on a un axe... quand on voit que les dirigeants s'allient avec les salariés pour défendre leurs propres intérêts et que parfois ils sont en conflit pour d'autres choses, bon, c'était un peu limite comme manœuvre de lobbying.
Ce qui est un petit peu limite aussi, c'est le patron, le DG hier,
Comment ?
Mais c'est une bonne manœuvre de lobbying.
On a l'impression qu'ils sont un peu instrumentalisés à l'excès.
Et le DG qui est au milieu de la foule hier des salariés qui brandissait tout de suite d'entrée de jeu la menace de l'emploi et 3000 emplois se ressortent dessus.
En plus, voilà, on a le sentiment qu'ils ont été un peu instrumentalisés. Mais néanmoins, on peut comprendre qu'ils aient besoin d'un délai pour s'adapter. À partir du moment où ce délai est court, et on peut imaginer qu'un groupe qui consacre beaucoup à l'innovation, beaucoup à la R&D, et c'est d'ailleurs comme ça, c'est un vrai succès français, le groupe
2027,
dans le monde entier.
3 ans, est-ce que c'est court 3 ans pour s'adapter?
C'est beaucoup trop court.
Moi, je pense qu'il faut...
Mais attendez, je vous rappelle que le groupe SEC produit aussi des poils sans téflon.
Moi, j'ai découvert cette histoire des PFAS. Je savais même pas ce que c'était. Le mot PFAS, je me souviens, dans mon enfance, il y avait des PFIS. C'était les poids sauteurs de PIF Gadget.
C'est
une époque nostalgique.
Mais PFAS, c'était un mot que je ne connaissais pas. Bon, mais visiblement, et d'ailleurs, c'est bizarre que ça revienne dans le débat public que maintenant, il y a un vrai sujet de santé publique autour. Attendez, peut-être qu'il est un peu exagéré, mais l'ANSES, qui est l'Agence nationale de la santé publique, pointe quand même un vrai sujet. Donc il faut le traiter. Et les entreprises privées ne peuvent pas s'exonérer de l'effort de transition.
Non, mais le problème est justement sur le fait que vous ne le saviez pas, parce qu'il n'y a aucune transparence sur ces produits-là. Ouais. Samuel Botton.
Parce qu'il y a peut-être un manque de pédagogie qui est fait. Moi, je vais peut-être même être un peu plus dur que Emmanuel sur ce sujet. J'ai l'impression que ça a été traité complètement à l'arrache. C'est effectivement sorti de nulle part. On découvre qu'il y a un vote et que le tout s'est orchestré en moins d'une semaine. Alors, sur la question des emplois, j'entends. Le problème que j'ai, c'est que si vous faites, par exemple, un parallèle avec les directives européennes sur la fin des véhicules thermiques, même si on est encore trop court, vous avez quand même une marge de préparation qui est relativement conséquente. Là, en 3 ans, excusez-moi de le dire, vous ne ferez rien. Après, pour revenir sur...
Mais ne me dites pas qu'ils y réfléchissent pas depuis un certain temps.
Voilà. Ils y réfléchissent à beaucoup de choses, mais après, c'est de la même manière qu'il faut remplacer toute une flotte de voitures. Il va falloir remplacer
Ils ont déjà changé des molécules, etc.
Ils traînaient
la patte. Mais la question centrale, c'est surtout sur l'utilisation des poils et voire même leur surutilisation et les traitements de nettoyage qu'on peut leur allouer qui renforcent justement, faute d'autres termes,
la toxicité.
La toxicité. Sur Seb, on va juste remettre 2 secondes les choses en place pour avoir assez bien connu le groupe. C'est quand même grâce à ce groupe que le mot réparabilité est présent dans le Larousse et dans le dictionnaire, parce que c'est une des premières entreprises qui a fait en sorte, entreprise française, j'entends, de lutter contre l'obsolescence programmée, à eux d'appliquer la même chose sur cette question des poils. Et puis après, moi, là, je suis relativement raccord avec Thierry de la Tour d'Arthèse quand il disait c'est un sujet qui doit être en alignement avec l'Union européenne. Et encore une fois, ça nous amène à une question qu'on a déjà traité à de nombreuses reprises ici, c'est quel est le rôle de l'Union européenne et à quel moment on va tous agir de concert sur des questions qui concernent l'ensemble des Européens.
Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet pour un patron d'entreprise. Il pourrait y avoir d'ailleurs demain peut-être une action collective, j'en sais rien, une responsabilité pénale même qui pourrait être engagée, c'est-à-dire à vendre un produit s'il est toxique. Alors visiblement, les seuils, voilà, il y a une discussion scientifique, on n'est pas dans les seuils. Visiblement, le matériau qu'utilise Tefal n'est pas le même que le fameux téflon originel de Dupont de Nemours, etc.
Variables.
C'est ce que j'ai lu, il y a différentes variables. Donc tout ça, on entre dans la technique. Mais on ne peut pas balayer le sujet.
Voilà. La menace ne concerne pas que Tefal, d'autres fabricants de poils en France.
Voilà, oui. Et aujourd'hui, on a quand même un public jeune qui est
sensible à ces questions,
et donc il faut le traiter. Et c'est vrai que Seb, ça reste une magnifique
entreprise française. Non, mais on est d'accord avec ça.
Et donc ils ont les moyens de le
faire. Sur le sujet de la question industrielle, le projet de loi prévoyait aussi d'interdire tous les produits entrant sur le territoire qui étaient toxiques de la même manière. Donc ça veut dire que Seb n'aurait plus eu aucun concurrent. Et là, c'était un boulevard justement pour innover et pour s'approprier le marché, non, Nicolas ?
Oui. Moi, j'entends les arguments et je les comprends, mais j'ai une crainte qui est que périodiquement, on ait des grands sujets comme ça qu'on traite très très vite. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a eu très peu de débats. Il y a un vrai débat scientifique. Il y a des questions de la dose, il y a des questions de l'interaction. Je pense qu'il faut, clairement, il faudrait financer plus de recherches là-dessus.
On agit sur le principe de précaution.
Oui, mais je vais vous donner un autre exemple sur lequel on n'agit pas du tout sur le principe de précaution et qui, en termes de santé publique, est sans doute beaucoup plus important. Ou, d'après certains spécialistes épidémiologistes, le vrai sujet du XXIe siècle, c'est la qualité de l'air. Et ça, personne n'en parle. Parce que, pourtant, on vit à 80% dans des bâtiments fermés, avec de l'air en circuit fermé, des climatisations, des réglementations écologiques qui sont prises pour toute une série de raisons qu'on connaît, qui sont des bonnes raisons, mais qui contribuent à faire que nos cuisines, par exemple, sont des espaces en vase clos. Dans les cuisines, vous avez la poêle sèche qu'on voit à l'écran, mais vous avez aussi tous vos produits. Si vous la transformez en vase clos, vous respirez ça en permanence. Bon. Et donc, ayons des approches globales en termes de santé publique et ne tombons pas dans le travers qui consiste à dire ce mois-ci on se fait l'épiphase, dans trois mois.
Non, mais vous avez raison.
Non, mais on peut imaginer qu'on en soit au début du dialogue.
Aussi remettre en perspective, on a globalement une sécurité sanitaire qui s'est renforcée au fil des décennies. Preuve en est quand même l'allongement de l'espérance de vie, le fait qu'on la consommation notamment de produits agricoles et agroalimentaires, et Dieu sait si ça suscite débat, ne nuit pas globalement à la santé. Donc il y a des sujets, il faut les traiter, mais sur le long terme, on a quand même une protection du consommateur qui s'est accrue.
Et l'allongement de l'espérance de vie, c'est un très bel exemple. En Occident, en Europe, c'est le traitement de l'eau et les canalisations. Après, c'est les antibiotiques. Donc, on a de l'innovation qui améliore la qualité de vie, c'est certain.
Ouais. Samuel, pour conclure là-dessus.
Très rapidement, la démonstration d'Audrey m'a fait rappeler un problème que je n'avais pas pris en compte en préparant l'émission. On a beaucoup parlé des poils, mais il y a aussi la question des robots de cuisine.
Ouais.
Qui ont exactement les revêtements. Ouais. Et
tous les ustensiles de cuisine sont concernés par l'exemption.
Donc là, ça va pour le coup aller sur les objets connectés et ça risque d'être encore une autre problématique. Ouais. Les ventes sont en hausse et à peu près énormément de ménages sont équipés de ce point de vue-là.
Alors, on peut quand même imaginer
vont se multiplier dans les années
à venir. Parce que maintenant que l'opinion publique est saisie, est informée du sujet, on espère en tout cas que ça ne soit
aujourd'hui c'est
Seb,
demain ce sera le creuset.
Bon, maintenant qu'on n'est plus inquiet pour les poils Tefal, est-ce que vous êtes inquiet pour les start-up françaises? On pose la question parce qu'apparemment elles ont du mal à trouver de l'argent depuis le début de cette année 2024.
Eh oui, puisque d'après les données du cabinet EY, elles ont levé un peu plus de 1,9 milliard d'euros sur le premier trimestre et c'est 5% de moins que sur la même période de l'an dernier. On écoute tout de suite Maya Noël, la directrice de France Digital, qui était ce matin sur BFM Business.
Je pense que les bons projets continuent à être très bien financés. Il reste de l'argent et là, on est en train de redécoller. Donc, le début de l'année n'est pas forcément évident. Ça traduit aussi la même chose que la fin de l'année dernière. Mm-hmm. Néanmoins, ça montre que si on a un beau projet, on peut continuer à être financé. Et donc, aujourd'hui, on a Pigment. Hier, il y avait aussi Blablacar qui a annoncé une levée de 100 millions. Mm-hmm. Donc, il y a quand même beaucoup de signaux positifs qui montrent qu'on est capable toujours d'encourager nos champions.
Et oui, dès que les taux remontent, on a l'impression que la fête est finie d'un seul coup. Là, on commence à séparer le bon grain de livret, on regarde beaucoup plus les dossiers, on est beaucoup plus regardant d'un seul coup.
Ah bah le temps de l'argent facile est terminé, hein, ouais. Samuel.
Oui, il est terminé parce que les fonds d'investissement, alors que c'est leur rôle en premier lieu, se sont enfin posé la question de la rentabilité parce qu'il y a eu des mauvais usages de patrons de start-up. Alors moi, ça m'a fait rire quand le sujet a été annoncé parce qu'il se trouve que sur le dernier extra time auquel j'ai eu droit, j'avais évoqué un entrepreneur qui avait oublié sa levée de fonds à 17 millions d'euros. Ouais. Ça nous renvoie toujours au même problème. C'est beaucoup de start-upers qui ont confondu argent délevé et argent personnel. Ça pose toujours la même question, c'est celle des business models. Évidemment que dans toute start-up, il y a une utilité, il y aura toujours quelqu'un pour y souscrire. Mais si vous n'avez pas la vision à long terme pour mener le projet à bien, pour assurer le paiement de vos salariés et pour vivre en dehors des levées de fonds, ça sert à rien. Si vous prenez, moi j'ai souvenir, il y a 2 ans, où j'allumais, parce que je le fais par plaisir, BFM Télé ou BFM Business en zappant entre les deux, il n'y a pas un jour où on ne voyait pas une annonce d'une nouvelle licorne. C'était sur le mois de juin, février 2022, si je ne dis pas de bêtises.
Et la nouvelle depuis ce matin.
La nouvelle depuis ce matin, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'annonce de ce type, mais à un moment, on rentrait dans un délire Total, on est en train de se dire, mais jusqu'où ça va s'arrêter? Alors, il y a les optimistes qui se disaient...
Parce que l'argent était facile, comme disait Audrey, parce qu'on prenait tout en espérant avoir la bonne pioche.
Oui,
parce
oui que, alors, et puis on n'a pas eu de scandale non plus sur les fameuses licornes dont vous parlez.
C'est la fin du mindset où ça m'a marre et du storytelling maintenant, et ça fait 5 ans maintenant qu'on
est. C'est votre chouchou.
Bien sûr, il faut être dans le story making. Il ne faut plus dire, il ne faut plus valoriser des idées, il faut les mettre en application.
On peut se féliciter aussi que sur la quinzaine de licornes qui existent en France, il n'y en ait pas une qui ait quitté le territoire français. Vous malgré l'avez dit, la fiscalité.
Sur la quinzaine qui existe, quand on était à 30 il y a 2 ans.
Oui.
Parce que vous prenez en compte les valorisations actuelles.
Et donc certaines licornes, compte, oui, certaines avis, licornes ne sont plus licornes aujourd'hui, finalement.
Exactement.
Le vrai problème des start-up, et pourquoi on en a moins, pourquoi elles ont du mal à se développer, c'est parce qu'on n'a pas assez d'épargne longue. Oui. En Europe, il y a 9000 milliards d'épargne longue qui manque. Si on se compare par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, on est des pays avec très peu de capitalisation retraite. Et la capitalisation retraite, c'est stratégique parce que c'est l'argent qui est investi à 10, 20, 30 ans.
Ouais.
Si les États-Unis sont les meilleurs dans la tech, si les États-Unis sont les meilleurs dans l'IA, c'est parce qu'ils ont des start-up qui grossissent grâce aux fonds de pension. Les fonds de pension, c'est la couveuse des start-up.
Et puis grâce à la commande publique aussi.
Oui, la commande publique amorce. Une fois que vous avez la commande publique, vous allez voir les experts financiers et vous leur dites « je vais me développer ». Et là, l'argent arrive, c'est l'argent des fonds de pension, l'argent des retraites. Tous les grands, tous les GAFA, tous les SpaceX, tout ça, c'est la commande publique, un peu de commande publique au départ, et encore pas chez tous, et beaucoup d'épargne retraite. Et ça, c'est ce qui nous manque. Donc on a eu le petit moment start-up, il est en train de se dégonfler, il est en train de se dégonfler parce qu'on n'a pas traité le sujet épargne longue. C'est un problème français,
ça, c'est
pareil en Allemagne.
C'est culturel, ça.
C'est pareil
culturel,
en Italie.
Mais
c'était culturel, c'est fini.
Non, mais attendez, ça ne concerne pas que la France, c'est un phénomène plutôt global et général. Les levées de fonds, elles sont moins importantes aux États-Unis aussi.
Vu ce que l'on veut, les ambitions qui sont celles de la France, de l'Europe, mais de la France en particulier, notamment sur l'intelligence artificielle, où on a annoncé et fait des annonces quand même importantes récemment. Il faut continuer quand même d'encourager les projets, les chercheurs, vu notre ambition en matière de réindustrialisation, vu les questions de transition écologique, vu les questions de responsabilité sociale et environnementale. Je crois qu'il faut quand même, et je sais qu'une antenne comme BFM Business le fait beaucoup, notamment à travers les BFM Awards, donc il ne faut pas se décourager et il faut continuer d'aller chercher. Je pense que là, on est peut-être dans une phase un peu de retournement et d'adaptation, d'ajustement, parce qu'il y a peut-être eu trop de projets, donc il faut être exigeant sur la qualité des projet, mais en tout cas, il ne faut pas renoncer à penser qu'il faut favoriser cet investissement-là, et notamment pour les femmes en particulier, que j'en vois, il y a offensive sur le plan de ces start-up.
Oui, offensive, avec beaucoup de projets. Pourtant, les femmes n'ont toujours accès qu'à 2% des fonds.
Voilà,
des
fonds mais donc, continuons le combat.
Samuel,
voilà, c'est cyclique.
Oui, c'est cyclique.
C'est cyclique. Bon, on verra quand sera le prochain renouvellement, même si je doute que le fonds d'investissement et les financiers fassent preuve d'autant de latitude que par le passé. Et après, effectivement, la question, c'est d'accompagner les bonnes startups, celles qui ont une utilité, celles qui ont quelque chose à faire valoir. Il y a beaucoup de projets qui doivent être menés et ça doit être un soutien. Mais aujourd'hui, il va falloir changer le mindset d'une manière ou d'une autre et revenir à des choses très concrètes.
Mais
et c'est là que l'intervention d'Emmanuel, moi, m'intéresse. C'est quand vous parlez d'industrialisation et comment est-ce qu'on peut réussir ce mix pour remettre ces deux catégories d'emplois au même niveau et faire en sorte que ce soit une locomotive au moins pour notre pays, dans un second temps pour l'Union européenne, et enfin
mais
pour le monde.
Mais le réveil est douloureux. 1,9 milliard levé là au premier trimestre. Premier trimestre 2022, 4,7 milliards. Voilà, donc c'est quand même... Oui, Nicolas, vous voulez dire un mot juste pour finir.
La clé pour tous ces sujets que vous avez évoqués, la réindustrialisation, la transition, l'IA, c'est l'épargne. Si on a été les premiers avec l'Angleterre dans les premières révolutions industrielles, c'est parce qu'on avait un drainage de l'épargne.
Mais on n'arrive plus à drainer l'épargne.
Si on est à la traîne,
parce que l'épargne, elle est investie qu'en bons du Trésor français.
Oui, c'est ça.
Dans l'assurance vie, on a quand même mis 2000 milliards.
L'épargne en Europe, elle finançait les chemins de fer qui étaient la tech d'aujourd'hui. Elle finançait les débuts de l'électrification. Elle servait à faire ça.
Oui, mais c'est bien pour ça, Nicolas, que la France pousse l'union des marchés de capitaux.
Oui, ce que devrait pousser la France, concrètement, je vous l'ai dit, elle devrait commencer à provisionner les retraites de ses fonctionnaires, et elle devrait poussé l'Union européenne à généraliser des capitalisations collectives partout. Il y en a aux Pays-Bas, ça marche très bien. Ouais. Et il y en a en Angleterre, alors ils ne sont plus dans l'UE, mais ça marche très bien, ça finance des retraites.
Il y en a dans le secteur public en France.
Il y en a dans le secteur public. Voilà, il faut faire ça. Et ça sera bon pour le pouvoir d'achat et ça sera bon pour l'innovation.
Bien, une minute avant vos avis pour demander si vous êtes content que finalement le pass rail jeune voit le jour le 15 juin prochain, forfait de 49 euros qui permettra aux jeunes de moins de 27 ans d'emprunter de manière illimitée les TER, les intercités dans toutes les régions du pays. Ça a failli pas se faire hein. Jusqu'à hier soir, c'était pas gagné. Différent entre plusieurs régions, finalement ça se fait. Voilà, les voyages sont la jeunesse, comme on dit.
Pas un peu de démagogie dans cette mesure. Bien sûr qu'on a envie que les jeunes puissent circuler le plus facilement possible. Mais enfin, qui va payer ? Parce que c'est pas la SNCF, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est les régions, c'est l'État.
Les régions disent que c'était au gouvernement de payer.
On multiplie ces petites dépenses, chacune a ses raisons, mais enfin on a mis récemment une subvention pour faire réparer ses vêtements. Et je trouve que c'est pas très raisonnable dans la période dans laquelle on est.
Ok, 30 secondes chacun, messieurs, là-dessus.
Oui, je suis d'accord, c'est encore l'État qui décide avec l'argent des autres, l'argent de la SNCF, l'argent des régions, il tord la main à tout le monde. Si l'État faisait ce qu'il a à faire et laisser les autres faire leur job, je serais plus rassuré.
Le message est passé, ça s'est dit, Samuel.
Indépendamment des considérations de coûts, je vous citerai François Hollande, à l'arrivée, c'est l'État qui paye. Ok, très bien, moi je vais me réjouir pour les jeunes qui sont dans des situations professionnelles difficiles, dans un contexte compliqué. Donc on va essayer de voir le bon côté de la chose, et à titre personnel, très heureux. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a quelques présidents de région qui sont montés au front.
Oui.
Pour ne
parce
pas
que
avoir
l'Île-de-France,
justement
parce que l'Île de France,
Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez.
Alors sur l'Île-de-France et les transports, ça c'est encore un autre problème et c'est cataclysmique, mais au moins sur ce volet-là, on peut au moins se réjouir pour les jeunes qui pourront aller voir leur famille.
Et puis c'est une belle annonce à quelques semaines des élections européennes.
Aussi, oui, j'ai pas envie de le dire,
évidemment.
Oui.
Voilà. Allez, 3 minutes, c'est l'heure de l'extra time pour finir comme tous les soirs vos avis, coup de gueule, coup de cœur sur 30 secondes, c'est la règle impitoyable de ce format. Nicolas, est-ce que vous voulez y aller? Allez, 30 secondes.
Oui, volontiers. Alors, moi, j'ai un satisfait-site. Je suis ravi de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, les RAF, parce qu'ils augmentent les retraites de 6,8%. Et c'est pas l'État qui paye, c'est les marchés financiers qui payent, puisqu'ils font ça grâce aux dividendes et plus-values qu'ils ont encaissés. Ils ont mis de l'argent de côté. Ils ont provisionné 126% des promesses qu'ils font. Et ça permet de gagner de l'argent et de le redistribuer à tous les fonctionnaires sans que ça coûte rien au budget.
Et ben voilà. Et c'est pas l'État qui paye.
De bons gestionnaires, moi je parle des mauvais.
Et oui, mais on est complémentaires.
Exactement. Voilà. Mais c'était le coup de cœur de Nicolas Marquez. Samuel Botton, puisque vous avez pris la parole.
Oui, alors moi, c'est les conclusions de Bercy sur les contrôles qui ont été menés sur les influenceurs. Donc à peu près 315 qui ont été contrôlés, la moitié qui ne sont pas en règle. Et j'entends toujours la même chose. Alors des bad buzz en influence, j'en ai vu plein, notamment sur les Jeux Olympiques des influenceurs de France Télévisions, où certains ont été retirés du casting parce qu'on s'attarde pas suffisamment sur leur passif et leur dossier. Et toujours le même discours des agences d'influence et des syndicats qui représentent, en disant oui, mais ils sont mal accompagnés, ils sont mal conseillés, on a encore du travail à faire. Oui, je veux bien, ça fait 8 ans que la discipline elle existe dans les agences, ça fait 8 ans qu'on est confronté aux créateurs de contenu et aux influenceurs. Donc à un moment, il va falloir changer le mindset, remettre un peu d'ordre dans tout ça et faire en sorte d'être dans les clous.
Et ben voilà pour le coup de gueule ce soir de Samuel. Emmanuel Kessler, c'est un bouquin ou pas encore ce soir?
Non, c'est pas un bouquin. Alors au départ, c'était un coup de gueule parce que je trouvais ça ridicule que l'Assemblée nationale, vu l'ampleur des problèmes qu'on a à traiter, examine une proposition de loi sur la discrimination capillaire. Puis finalement, j'ai gardé de près et ça devient un coup de cœur parce que je pense que c'est finalement un vrai sujet. J'ai lu des études qu'il y a beaucoup de femmes, notamment d'origine africaine, qui, parce qu'elles ont des dreadlocks, parce qu'elles ont des tresses, etc., se voient refuser des emplois. Donc il faut se saisir de ce sujet. Je suis pas sûr qu'il faille une loi parce que je pense qu'il y a déjà des arsenaux législatifs contre les discriminations, mais des bonnes pratiques il en faut. Et mettre le sujet sur la table, c'est intéressant. Ça prouve que la représentation nationale n'est pas déconnectée des préoccupations quotidiennes.
Eh bien, vous venez de le faire ce soir. Vous avez mis le sujet sur la table.
On a parlé sur BFM Business de ce
problème
de discrimination capillaire, qui est un vrai sujet, évidemment. Merci messieurs, 19h54, c'est fini ce soir. Nicolas Marquez, directeur général de l'Institut Molinari, Emmanuel Kessler, journaliste économique, Samuel Botton, expert en communication. Merci messieurs. À très vite avec grand plaisir pour de nouvelles aventures. 19h55, c'est fini.
Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche avec le QR code sur vos écrans. Sinon, c'est bfmbusiness.com et sur toutes les plateformes, évidemment. Et puis, bien sûr, Good Evening Business sera là demain soir.
Alors, bien demain, 18h, évidemment, fidèle au poste. Dans un instant, Frédéric Simotel aux commandes de Take & Co. jusqu'à 21h30 en direct sur BFM Business. Bonne soirée à toutes et à tous.
À demain.
Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.